Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures au carrefour souvent glissant de l'info et de l'humour. Pour que ce délicat mélange des genres tienne la route, il faut évidemment des professionnels aguerris, habitués aux situations extrêmes. Bref, le portrait robot d'Eva Rock, journaliste média qui, à l'instar de son maître Saint-Exupéry, sait que le bon journaliste se doit d'aller sur le terrain.
J'ai testé un jeu pour la télé, une sorte d'interville sur des boules géantes, tout ça.
Et il y a des images de ça ?
Si vous êtes sage, je vous montrerai.
En effet, une enquête rapide diligentée par Céline Dacosta a permis de mettre la main sur ces fameuses images.
Oh, trop mignonne. Oh, regarde comme elle se met sur ses petites pattes arrière.
Oui, un grand bond pour elle, un petit pas pour le journalisme. Heureusement, Debout les copains, c'est aussi Fabrice Dalméda. Le monsieur Histoire d'Europe 1 qui ce matin se prosterne devant un pharaon maudit qui revient à Paris. Déjà plus de 130 000 billets vendus pour assister à l'expo Toutankhamon qui ouvre ses portes samedi. Qui était-il ? Pourquoi l'appelle-t-on le pharaon maudit ? A tout de suite.
Merci d'écouter Europe 1 ce jeudi 21 mars. Et très bon réveil, il est 6h. 5h, 7h, Mathieu Noël.
Tout ce qu'il faut savoir de l'actualité de ce jeudi 21 mars. Bonjour Céline Kallmann.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin Céline.
Cette information repeint l'arrestation d'un homme sans doute à l'origine de plusieurs centaines de cambriolages commis à Paris. Tous les détails dès le début de ce journal. Alexandre Benalla de nouveau mis en examen, notamment pour l'épisode du selfie montrant avec une arme. Et puis en Italie, un massacre évité in extremis. Un chauffeur de bus a pris en otage une cinquantaine de collégiens. L'un d'eux a réussi à prévenir la police. Il dort désormais en prison. Un homme d'une vingtaine d'années, soupçonné d'être à l'origine de plusieurs centaines de vols commis à Paris. Il aurait fourni à des réseaux de cambrioleurs des cartes magnétiques qui permettent d'accéder aux parties communes des immeubles parisiens. Europe 1 vous révèle donc ce matin que les enquêteurs ont mis fin à son business très rentable. Guillaume Bier.
Grâce à lui, les cambrioleurs avaient carte blanche pour entrer dans les immeubles. Car cet homme de 23 ans leur vendait sous le manteau des cartes magnétiques, ces fameux passes vigiques utilisés par les facteurs plombiers électriciens ou encore certains distributeurs de prospectus. Justement, le suspect gère un réseau de salariés qui glissent des publicités dans les boîtes aux lettres. Il a donc pléthore de cartes vierges, toutes blanches, qu'il active pour ses employés. Jusqu'ici, tout est légal. Sauf qu'au passage, il en vend aussi à des cambrioleurs. 30 euros le précieux sésame, qui se désactive automatiquement au bout de 3 jours. Voilà pourquoi, depuis plus d'un an, il en a vendu des quantités astronomiques, jusqu'à 70 cartes d'accès par semaine, d'après nos informations. De quoi ouvrir bien des portes à des réseaux de malfaiteurs. Ceux qui ont été arrêtés juste avant lui ont commis plus de 120 vols avec effraction. En garde à vue, le suspect a tout avoué. Il a été mis en examen par un juge, incarcéré à la prison de la Santé le mois dernier. Et depuis, son arrestation a marqué un coup d'arrêt provisoire à la hausse des cambriolages.
Guillaume Bier pour Europe 1. 5 mois avec sursis, 2500 euros d'amende, peine à laquelle a été condamné un étudiant en philosophie qui avait harcelé sur Internet la journaliste Nadia Dam après une chronique sur Europe 1 en 2017.
Alexandre Benalla, une nouvelle fois mis en examen hier, notamment pour l'épisode du selfie qui le montrait avec une arme.
Oui, Alexandre Benalla, au cœur d'une réunion ce matin au bureau du Sénat, qui va tenter de répondre à cette question. Faut-il transmettre à la justice le cas de 3 collaborateurs d'Emmanuel Macron dans le cadre de cette affaire, ces cas divisent les sénateurs. Adrien Beck.
Je n'imagine pas qu'on aille contre l'avis de la commission d'enquête. Pour ce ténor de la droite sénatoriale, oui, la justice doit se saisir des déclarations des 3 collaborateurs d'Emmanuel Macron devant la commission Benalla. Il y a possiblement faux témoignages, ajoute un autre, et sur ce point, gauche et droite sont d'accord. Le dossier est trop fragile, répond le patron des sénateurs centristes Hervé Marseille.
Il faudrait saisir le procureur pour que lui-même engage des investigations pour voir si éventuellement on peut y trouver une qualification pénale, par exemple un faux témoignage. Ça me semble assez ambigu. À mes yeux, ce n'est pas de nature à fonder une démarche judiciaire.
Entre ces deux lignes, le président du Sénat, Gérard Larcher, se montre très discret. On appliquera le droit, rien que le droit, assure son entourage. Car en filigrane se jouent les relations entre le Sénat et l'Élysée, la réforme constitutionnelle et la baisse du nombre de parlementaires annoncés. Certains sénateurs veulent montrer leurs muscles, analyse un poids lourd du Palais du Luxembourg qui ajoute « La question, c'est de savoir si on a envie ou pas » de rentrer en guerre avec l'exécutif.
Adrien Beck pour Europe 1. Les militaires sentinelles renforts pour les manifestations gilets jaunes de ce week-end. L'opposition évoque un affichage de communication. 200 millions d'euros, chiffre des dégradations du week-end dernier annoncé hier par Bruno Le Maire. Édouard Philippe reporte un déplacement prévu ce week-end en Guyane en raison des questions d'ordre public donc liées aux violences des dernières manifestations. Et puis Brigitte Macron a été huée hier soir à Reims alors qu'elle devait donner le coup d'envoi fictif du premier match de football mixte. Elle a été sifflée par une partie des 10 000 spectateurs.
C'est une mesure qui ne va sans doute pas faire plaisir aux usagers des TER, les trains express régionaux.
Oui, l'achat d'un billet dans le train par un voyageur qui n'aura pas pu l'acheter avant à cause d'un problème technique ou de l'absence d'un agent au guichet sera désormais majoré. Une amende dénoncée par les associations d'usagers. Reportage dans la petite gare de Saint-André-le-Gaz en Isère de Rémi Pierre.
Une borne automatique en tout et pour tout sur l'un des quatre quais pour acheter son billet ou son abonnement mensuel. Comme de nombreuses petites gares, celle de Saint-André n'a plus de présence humaine en guichet. Alors pour Claudine qui effectue tous les jours l'aller-retour jusqu'à Lyon, pas question d'être verbalisé si un problème technique l'empêche de renouveler son abonnement.
Ça craint, oui, Max. Déjà, moi, je paye 190 euros par mois pour pouvoir faire mon voyage tous les jours pour aller bosser à Lyon. Et maintenant, ils nous demandent des amendes tout simplement parce qu'ils font pas leur boulot. Non, ils vont essayer de te remettre plein les fouilles en même temps.
Jean-François, un autre passager régulier, trouve lui aussi la pilule amère. Surtout que la borne automatique n'est pas vraiment fiable.
En début d'année, elle a été souvent en panne. Là, je sais plus parce que du coup, j'ai pris un abonnement annuel. Ça marche mieux. Je suis pas obligé de passer à la machine pour valider le truc tous les mois. Deux fois, ça m'a fait le coup. Deux fois de suite pour recharger l'abonnement mensuel. La machine est en panne.
Brice, lui, défend cette mesure à traquer les fraudeurs, encore faudrait-il qu'il y ait des contrôles.
Alors les contrôles, oui, sont très rares. Il peut se passer deux mois sans aucun contrôle et puis un jour avoir trois contrôles dans la même heure, c'est assez surprenant.
Comme il n'y a pas beaucoup de contrôles, on peut imaginer que la mesure ne va pas beaucoup s'appliquer.
Sur cette ligne, non.
Et en tout cas, pour l'instant, dans la gare, aucune affiche n'indique cette nouvelle mesure. À Saint-André-le-Gaz, Rémi Pierre, Europe 1.
Un constat ce matin, les taux immobiliers n'ont jamais été aussi bas, c'est simple. La capacité d'emprunt d'un acheteur a quasiment doublé en 10 ans. Les explications d'Hervé Hatt de la société MeilleurTaux.com.
On arrive aujourd'hui sur 20 ans à emprunter 1,55%. Et aujourd'hui, sur les meilleurs profils, on peut emprunter sur 20 ans à quasiment 1%, ce qui est un jamais vu en termes de taux pratiqué pour le crédit immobilier. C'est donc le pouvoir d'achat immobilier le plus élevé qui ait jamais été enregistré sur les marchés français. Aujourd'hui, sur 10 ans, on voit que dans la quasi-totalité des villes françaises, on a gagné des mètres carrés. C'est-à-dire que pour une mensualité de 990 euros par mois, on peut acheter aujourd'hui, par rapport à il y a 10 ans, 48 mètres carrés de plus à Saint-Étienne, 18 mètres carrés de plus à Reims, 10 mètres carrés de plus à Lille. Et cette tendance à l'augmentation des mètres carrés qu'on peut acheter est une réalité et qui fait plus que contrebalancer la hausse des prêts immobiliers.
Hervé Hatt avec Maud Descamps.
Et enfin, des collégiens italiens qui ont eu la peur de leur vie hier.
Oui, ils ont été pris en otage et ligotés dans un bus par leur chauffeur près de Milan alors qu'ils devaient se rendre à une sortie sportive. L'homme a invoqué le sort des migrants morts en Méditerranée avant de mettre le feu au bus. Heureusement, un adolescent a réussi à récupérer un téléphone. Il a pu prévenir les carabiniers. Une douzaine d'enfants et deux des adultes qui les accompagnaient ont été conduits à l'hôpital après avoir été intoxiqués. L'auteur des faits a été arrêté.
Merci beaucoup. C'était le journal toujours complet de Céline Kallmann, diplômée du CFJ et des studios Pixar. En écoutant ces effets spéciaux, George Lucas lui-même se serait dit « Oh my God !»
Tu peux me faire écouter ? Je ne sais pas, on dirait vraiment ça, bof. Hein.
Ah, je croyais que c'était une vieille partie de tennis, moi.
Ah, j'ai cru que c'était une cassette audio.
Avec une raquette en bois.
C'était du skateboard,
eh oui. C'est ça ? Pixar vous attend, Céline. Restez avec nous, j'espère qu'on va réussir à vous garder quand même.
Bien sûr.
Europe 1.
Et 6h07, Mathieu Noël.
À suivre, c'est historique, le fact-checking par l'histoire. Et alors qu'une des momies les plus célèbres du monde fait son retour.
Patrick Juvé.
Non, Emma. Tout en Camon revient à Paris dans le cadre d'une grande expo événement qui s'ouvre samedi. Fabrice Dalméda nous raconte la vie, la mort et tous les mystères liés à celui qu'on a surnommé le pharaon maudit.
Il est 6h09, Mathieu Noël.
Et nous faisons un point avec vous, ma chère Céline Dacosta, sur la météo.
Oui.
Qu'est-ce que vous m'avez écrit comme bêtise ? Je suis comme au petit bonheur, je veux du soleil.
Mais oui, soleil. Ah maintenant, on a mis la musique.
Bah
merci
oui.
Philippe.
Encore mieux.
Oui, et ça va durer hein, ce soleil, puisque vous allez en avoir aujourd'hui. Effectivement,
ça soleil tombe bien, parce qu'on fait la météo du jour et pas celle de la veille. Donc
mais
c'est
oui,
bien
il y en aura demain aussi.
Oh, demain aussi.
Mmh, il y en a eu un petit peu hier.
Si vous écoutez un podcast, il vaut mieux avoir la météo de demain.
Oui, Eva, merci.
Exactement. D'ailleurs, en podcast, si vous nous écoutez, il est peut-être. Allez, 11h25. Alors, donc, ce beau temps va durer hein, avec un petit peu de nuages, c'est vrai, hein, ce week-end. Beau temps aussi en début de semaine prochaine. Voilà, ça c'est pour les gens qui nous écoutent en podcast. Aujourd'hui, petit bémol près des côtes de la Manche, avec des nuages et même quelques brouillards ce matin. Nuages qui laisseront passer des éclaircies, mais qui pourraient déborder sur les Pays de la Loire, la Picardie, l'Île-de-France et le Nord. Pour les autres, grand ciel bleu, du soleil et des températures douces cet après-midi. Ça reste frais ce matin, donc couvrez-vous.
Je vous dis bravo pour ce chatoyant programme. Eva Rock.
C'est la journée mondiale du rangement de bureaux. À quoi ressemble le vôtre? Est-ce qu'il n'y a pas un seul post-it qui dépasse ou est-ce que c'est un joyeux bazar? Vous nous répondez depuis ce matin 5h sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Je vous lis simplement celui d'Amor qui nous dit « Mon bureau tic à chaque fois que j'essaie de le ranger ».
Bureautique.
Mon bureautique.
Oh. Bravo.
Joli.
Ah, joli, c'est un joli mot. Merci.
J'aime l'humour. Merci Eva.
Europe 1. 5h, 7h. Mathieu Noël.
C'est un journaliste extrêmement polyvalent qui nous a rejoint à présent pour le Journal des Sports, présentateur de journaux, spécialisé donc dans le sport. Il est aussi, durant le 7-9, auxiliaire de vanne de Nikos Aliagas. Dès qu'il sent Nikos un peu en difficulté sur une vanne qui ne produit pas l'effet escompté, il se porte vaillamment à son secours, comme mardi.
Il vibre à nouveau, Florent Manadou, avec la perspective, vous le disiez, de l'or olympique à Tokyo dès l'année prochaine.
L'or pour Manadou. Vous l'avez ?
Oui, bien vu.
Merci les amis.
Vous avez fait ce que vous avez pu, en même temps, c'était difficilement rattrapable. On passe au Journal des Sports avec vous, Jérôme. À la une, le match qui fait avancer l'histoire.
Il s'est tenu hier soir à Reims, un match de foot entre deux équipes mixtes de part et d'autre, des filles et des garçons. Alors que dans 3 mois, c'est le mondial de foot féminin en France que Reims accueillera 6 rencontres. Hier soir, l'équipe mixte de Reims s'est imposée 7-2 face à l'équipe mixte du Variété Club de France, composée de personnalités et d'anciennes joueurs et joueuses, dont Sandrine Roux, l'ex-gardienne des Bleus.
Ouais, moi je suis une convaincue depuis 30 ans, hein, donc y a pas... là de ce côté-là... Il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que la Coupe du Monde qui se profile, c'est vrai que ça va encore ouvrir un petit peu les horizons et puis probablement changer les mentalités, parce qu'en France, c'est ce qui a été le plus dur. Il y a encore des choses à faire, tout n'est pas gagné, mais moi j'ai vu l'évolution en 20 ans, c'est exceptionnel quoi. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est exceptionnel.
Des propos recueillis par Julien Froment et la rencontre caritative était au profit notamment de la Fondation des Femmes. 20 000 euros ont été récoltés.
Foot au féminin toujours, Jérôme, avec la courte victoire des Lyonnaises en Ligue des Champions.
2-1 à domicile face aux joueuses de Wolfsburg en quart de finale aller. Il fallait déjà les battre, hein, ces redoutables Allemands de finalistes l'année dernière. Mais regret pour les Lyonnaises, triple tenante du titre. Elles menaient 2-0 après 20 minutes avant de baisser de pied. Il n'y aura donc qu'un seul but d'avance pour elles.
Baisser
mercredi
de pied
prochain.
Bah, ou oui. Lever le pied.
Les deux peuvent se dire, je crois.
Ah oui. Enfin, mais nous vérifierons quand même.
Oui, nous vérifierons
ça. Je ne connaissais pas.
Match retour mercredi prochain, ce soir, place aux Parisiennes. Chelsea-PSG, 20h05.
Les Bleus, à présent, les garçons, oui. S'envolent, eux, aujourd'hui, pour la Moldavie.
Et oui, arrivé prévu vers 15h dans un hôtel de Chișinău, la capitale, avant un entraînement en début de soirée, parce que demain soir, c'est Moldavie-France, match levé de rideau de la campagne de qualification pour l'Euro 2020. Et chaque joueur, figurez-vous, vient de recevoir un cadeau, la bague des champions du monde, ornée d'un coq de 2 étoiles. Du saphir pour le bleu, du diamant pour le blanc et du rubis pour le rouge, tout cela offert tout payé par Paul Pogba.
C'est un petit geste, on ne gagne pas tout seul, on ne gagne jamais tout seul. Ils m'ont soutenu, il y a eu des critiques, on était tous ensemble, on était soudés, c'est une famille. Donc voilà, un petit geste comme ça, c'est vraiment rien. Parce qu'une Coupe du Monde, c'est la vie et cette bague, tu peux la perdre. Et tu vois, la Coupe du Monde, tu perds pas ça.
Des propos recueillis par Jean-François Pérez. Moldavie-France, demain 20h45. Il y aura ensuite France-Islande lundi. L'information tombe à l'instant. Au championnat du monde de patinage artistique à Saitama, au Japon, le couple Vanessa James-Morgan Cyprès termine la compétition à la 5e place. Les Chinois Sui et Han sont sacrés champions du monde. En bref, fin de la belle aventure européenne des volleyeurs de Chaumont, battus 3-7-0 en quart de finale. Retour à Pérouse en Italie. Pérouse, l'une des meilleures équipes d'Europe. Et puis en handball, courte défaite des Nantais, 34-32 hier soir à Mannheim en Allemagne. En 8e de finale, aller de Ligue des Champions, tout reste possible. Pour le retour en France, le 30 mars, les Nantais sont vice-champions d'Europe.
On termine, Jérôme, avec l'histoire.
Elle demande justice. Mercedes Sala, la mère d'Emiliano, le joueur argentin décédé il y a 2 mois dans un accident d'avion, confie sa colère à l'équipe ce matin. Beaucoup de choses dans l'enquête ne nous paraissent pas claires. L'accident, le pilote, l'appareil, beaucoup de zones d'ombre. La colère est terrible, dit-elle, la colère pour toute la vie.
Merci beaucoup, c'était le Journal des Sports de Jérôme Lacroix. Et tout de suite, Eva, c'est une momie qui ne cesse de fasciner.
Un peu comme la chanteuse Jeanne Masse.
Non, Eva, je parle évidemment de la momie de Toutankhamon. Hein, mais comme Fabrice Almeida s'y connaît mieux en égyptologie que moi, on va lui donner la parole.
Europe 1.
Je vous ai compris.
Ich bin ein Berliner.
Je crois qu'après avoir vu ça,
On peut mourir tranquille.
C'est historique.
Bonjour Fabrice Delmé.
Bonjour à tous.
C'est l'événement culturel de cette fin de semaine. L'exposition Toutankhamon présente 60 objets qui sortent d'Égypte pour la première fois. Mais en fait, comment a été découvert ce trésor ?
Ben, c'est Howard Carter, un archéologue anglais de 48 ans, qui l'a trouvé. Cet amateur, passionné d'égyptologie, doué pour le dessin, depuis une vingtaine d'années, était à la recherche d'une tombe royale. Et le 4 novembre 1922, dans la vallée des Rois, en Égypte, avec son équipe, il trouve un escalier dans le sable. Ses hommes dégagent rapidement 12, puis 16 marches, qui débouchent sur un corridor, puis une porte. Carter est tout excité, mais il referme provisoirement l'accès, car il a promis au commanditaire de l'expédition, Lord Carnarvon, de l'attendre. Il lui envoie donc un télégramme en Angleterre. Le 29 novembre, enfin, les deux hommes sont à pied d'œuvre. Ils démontent la première porte et se trouvent face à une deuxième sur laquelle Carter décrypte un sceau royal. C'est l'emblème de Toutankhamon, l'image vivante d'Amon, littéralement. En y perçant une ouverture à l'aide d'une chandelle, pour la première fois, Carter voit une pièce avec une partie du trésor. Des meubles, des statues et déjà des objets en or qui scintillent.
Mais ce n'est pas encore la momie.
Non. Ils devront attendre plusieurs semaines avant d'accéder en février 1923 à la quatrième pièce où elle se trouve. Et là, ils voient son sarcophage enfermé, tenez-vous bien, depuis 1323 avant Jésus-Christ. Oh. Et dedans, le corps embaumé du souverain, sa momie.
Mais donc la momie n'est pas présentée à l'exposition ?
Ben non, le trésor est bien montré à la Villette, mais la momie repose dans sa tombe, où elle a été enterrée par les archéologues avec tout le respect que l'on doit aux morts. Pas de malédiction donc, mais le trésor nous fait remonter dans le temps et découvrir toute la beauté de l'Égypte ancienne.
Merci beaucoup Fabrice Delmeda. Et pour ceux qui veulent en savoir plus comme moi, vous proposez un podcast sur Toutankhamon. Il sera en ligne dès demain sur le site europe1.fr.
La veille de l'expo.
Parfait. Merci, on vous retrouve demain.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Debout les copains continue, 2 heures d'actu et d'invités qui la font. À 6h20, nous recevons Grégory Carré, directeur de l'Observatoire de la Consommation à l'UFC Que Choisir, qui publie aujourd'hui une enquête de satisfaction sur la SNCF. Retard, remboursement, qualité des sandwichs.
Mais qu'est-ce que c'est ? C'est de la merde ?
Non, d'ailleurs, c'est beaucoup plus cher. Quel est votre jugement sur la SNCF ? Réponse dans un instant.
Il est 6h18, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Emmanuel Macron se rend à Bruxelles aujourd'hui pour ce qui devrait être le dernier sommet européen à 28. Theresa May demande un report du Brexit au 30 juin, mais le président français demande un projet clair de la part de la dirigeante britannique. Les militaires de l'opération Sentinelle seront mobilisés samedi en France. De nouvelles manifestations de gilets jaunes sont attendues. Ce n'est pas la première fois que des soldats sont appelés en renfort dans le cadre d'un rassemblement. Enfin, le bureau du Sénat se réunit pour décider s'il va transmettre au parquet les cas d'Alexandre Benalla, de Vincent Crase et de 3 responsables de l'Élysée. Alexandre Benalla, qui a été une nouvelle fois mis en examen hier concernant d'autres faits de violence en marge du défilé parisien le 1er mai, et également pour l'épisode du selfie le montrant avec une arme.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Voici pour les titres de ce jeudi 21 mars. L'actualité, c'est aussi cette grande enquête publiée dans le dernier numéro du UFC Que Choisir. Le magazine a sondé plus de 6600 usagers de la SNCF et leur verdict est un peu sévère. Bonjour Grégory Carré.
Bonjour.
Vous êtes directeur de l'Observatoire de la Consommation à l'UFC Que Choisir. Premier enseignement de cette vaste enquête, le taux de satisfaction n'est que de 59%. 6 passagers sur 10 seulement se disent contents de leur voyage en train. Entre les Français et la SNCF, c'est quoi ? Un désamour ou juste un petit coup de moins bien inévitable dans un vieux couple ?
Alors, c'est pas forcément un coup de moins bien parce que c'est pas forcément un chiffre inédit pour nous. On a déjà mesuré par le passé.
Il évolue comment ce chiffre du coup ?
Alors, il est sur deux ans, il a augmenté d'un point, c'est-à-dire qu'il est quasiment stable. En revanche, c'est vrai que c'est un niveau plutôt bas par rapport, on fait énormément d'études dans des domaines très variés. D'habitude, on est plutôt sur des scores de satisfaction autour de 80%. Donc là, vous voyez qu'on
d'accord,
est
vous voulez dire tout
à 60%.
Confondu, oui.
Voilà. D'accord. Il y a guère que la justice qui fait pire.
Oui, d'accord. Alors 59%, c'est vrai que c'est, a priori, c'est un chiffre pas fameux, mais en même temps, il faut le comparer avec les concurrents du train, non ? Je sais pas, l'aérien, les cars, éventuellement la voiture. Le taux de satisfaction, il est quoi dans ces domaines-là ?
Alors dans les compagnies aériennes, c'est généralement un peu plus élevé.
Ah d'accord. Oui.
On est plutôt autour de 80%. L'explication, elle est peut-être en effet que vis-à-vis du train, on a un rapport un peu différent. C'est un peu un service public, ça veut dire qu'on considère qu'on est un peu...
On est plus exigeant.
Et puis que c'est un peu quelque chose qu'on possède, qui est un peu un autre bien, et que du coup, alors qu'une compagnie privée, une compagnie aérienne, c'est une compagnie privée, donc on est tout simplement client. Donc il y a peut-être des attentes plus importantes. Et après, bon, quand on parle du train, on va rentrer dans le détail, ouais. Mais il y a énormément de réseaux différents et les notes vont être très disparates.
Alors c'est ça, il y a des différences selon le type de train emprunté et de façon étonnante, les passagers du Ouigo sont plus satisfaits que ceux des grandes lignes classiques. Alors on rappelle ce qu'est le Ouigo peut-être déjà.
Alors Ouigo c'est un peu la version low cost du train, mais low cost c'est surtout en termes de prix parce que finalement le confort des trains...
Il n'y a pas une grande différence.
Non, le confort des trains est un peu assez proche, en tout cas c'est pas ce qui va expliquer de grandes différences dans l'appréciation, mais la principale différence c'est le prix. Vous pouvez partir de Paris, aller à Rennes pour pour 25 euros. Alors il y a quelques contraintes, hein. Faut arriver un petit peu plus tôt,
hein. Ouais.
Faut arriver une demi-heure avant.
Pour les bagages, aussi, en termes de bagages, c'est pas les mêmes.
Mais comme les contraintes sont annoncées, les gens les ont intégrées et les prix sont tellement intéressants que les gens sont plus satisfaits. Ou alors on peut avoir la lecture inverse, c'est-à-dire pour le TGV par exemple, c'est les niveaux de prix qui vont expliquer, les niveaux de prix élevés qui vont expliquer des scores qui vont être beaucoup plus bas.
Donc le prix reste la préoccupation numéro un des voyageurs. Peu importe dans quelles conditions ils voyagent, c'est le prix qui va définir s'ils donnent une bonne note ou pas à la SNCF.
C'est effectivement le critère le plus prégnant, celui qui a le plus d'impact et c'est le critère qui est le plus bas. Il y a d'autres critères qui vont être évalués et qui peuvent avoir des scores mitigés, mais c'est vraiment sur celui-là qu'on aura des notes plus basses.
Alors justement, les passagers ne comprennent pas grand-chose, enfin je parle pour moi en tout cas, à la politique des prix de la SNCF. On a l'impression que le TGV coûte cher, et pourtant votre enquête montre que les chiffres sont stables. D'où vient alors cette illusion ?
Alors,
si c'en est une.
Ils étaient déjà chers il y a 2 ans, donc ils n'ont pas diminué sensiblement, ils n'ont pas augmenté, mais du coup... il reste quand même significativement élevé pour beaucoup de gens et on a tendance des fois à dire que dans les TGV on trouve beaucoup de cadres et peut-être qu'on n'a pas l'ensemble de la population qui va être en mesure de se payer ces transports-là, donc ça reste à un niveau élevé. Et après l'autre point noir, vous l'avez souligné, c'est l'opacité des tarifs, c'est-à-dire qu'on comprend pas très bien pourquoi des fois on se doute, hein, le vendredi et le dimanche soir, ça va être un peu plus cher.
Là, on comprend, il y a plus de demandes. Mais sinon, le reste du temps, parfois, on ne comprend pas.
Voilà. Et puis, des fois, vous allez avoir des prix très, très attractifs. Et puis, alors maintenant, quand vous avez l'offre Ouigo qui apparaît, vous vous dites qu'il y a du 25 euros pour un trajet de 2 heures en TGV. J'ai du mal à saisir pourquoi je vais payer aussi cher sur le TGV.
Et d'ailleurs, vous avez fait un rapport, un ratio entre le prix du kilomètre, fait, hein, du rail. Alors, les régions de France sont totalement différentes. On n'a pas le même prix.
Oui, exactement. C'est-à-dire qu'on a pris le prix du billet plein tarif. Alors, parce que vous avez tellement de tarifs, il faut choisir.
Oui, avec des cartes plein tarif. Aussi.
Et on a divisé ça par la distance et on a fait le prix au kilomètre. Et en effet, c'est très disparate. Hein. Il y a des régions qui sont mieux lotées que d'autres. Et voilà, d'autres qui sont moins chanceux. Et c'est pas les mêmes qu'il y a 2 ans. Donc, ça peut changer. Donc, la politique de prix, elle peut être... Si dans l'ensemble, la moyenne n'a pas bougé, il y a des régions qui sont mieux loties qu'il y a 2 ans et d'autres moins.
Donc, on peut pas se dire, on va aller travailler dans une région parce que c'est moins cher en train, parce que l'année d'après, ça se trouve, ça bascule complètement.
Il faut déménager,
on passe de Bretagne dans le Var. D'accord. Venons-en au sujet qui fâche particulièrement. Un tiers des passagers ont l'impression que les trains ne sont pas ponctuels. Qu'en est-il en réalité ? C'était encore ça, j'ai une impression ou c'est juste une réalité concrète ?
Si on se réfère à l'actualité passée, il y a eu quand même d'énormes problèmes. Ouais. On en a beaucoup parlé. Il y a eu, il n'y a pas longtemps, la gare Montparnasse qui était complètement en blackout. Donc ça, c'est des choses que tout le monde va mémoriser. Et puis, il n'y a peut-être pas la même façon de comptabiliser les retards pour la SNCF, pour les passagers. Nous, je sais qu'il y a quelques années, on avait développé une application parce qu'on n'arrivait pas tout à fait au même chiffre que la SNCF.
Pourquoi la SNCF, elle compte comment les retards ?
Je ne sais pas, elle a peut-être tendance à...
À partir de combien de minutes un train est en retard pour elle ?
Ouais, alors il y a des retards peut-être. Alors je crois qu'il faut que ça dépasse 5 ou 10 minutes, mais enfin. En tout cas, ce n'est pas les mêmes façons de comptabiliser que pour les individus. Et là, on n'a pas tout à fait une même convergence. Maintenant, après, on nous dit qu'en tant que journaliste, on a tendance à parler des trains en retard. Alors peut-être que du coup, ça s'inscrit aussi dans l'esprit des gens.
Parmi les points de satisfaction, ça m'a amusé, les contrôleurs. Selon votre enquête, les Français les aiment. Vous écrivez même « passagers et contrôleurs en pleine lune de miel ». 8 sur 10, et non pas 8 sur 8, comme je l'ai écrit, ce qui n'était pas très très malin. 8 sur 10 les voient comme aimables, efficaces et fiables. Donc de ce côté-là, on a l'impression qu'il y a une hausse des incivilités dans le train avec les contrôleurs. En fait, pas du tout, ça se passe bien.
Oui, alors peut-être que, parce que comme les Français payent un billet de train, ils sont très contents de pouvoir le montrer et ils seraient très frustrés s'ils ne sont pas contrôlés.
Oui, c'est vrai.
S'ils ne sont pas contrôlés, ils vont être très frustrés d'avoir payé leur billet.
Je suis dégoûté.
Ben voilà.
Ah, il n'y a pas eu de contrôle, je suis dégoûté. Un dernier mot sur l'ouverture à la concurrence. Est-ce que la SNCF est tout simplement prête à la concurrence qui arrive ?
Oui, je pense. Il y a même dans notre article, on interviewe plusieurs personnes qui pensent même qu'elle a même un peu borné l'ouverture à la concurrence, c'est-à-dire qu'elle va relativement bien contrôler toute cette concurrence. Donc pour l'instant, nous, on n'a pas constaté les prémices même d'une explosion de la concurrence.
Merci beaucoup Grégory Carré. On rappelle que vous êtes directeur de l'Observatoire de la consommation à l'UFC Que Choisir. Nos auditeurs peuvent évidemment retrouver le détail de cette enquête dans le numéro d'avril de Que Choisir, en vente en kiosque actuellement.
Europe 1. Il est 6h26, Mathieu
Noël.
Oui,
non, pas 7h. N'essayez pas de prendre de l'avance comme ça.
5h26,
ah non.
6h26.
Debout les copains, continue sur Europe 1 avant de retrouver le journal de 6h30 de l'irremplaçable David Doucan. La météo, et plus le week-end approche, plus le soleil se fait généreux.
Il est 6h28, Mathieu Noël.
On fait un point sur la météo du jour, Céline, avec une journée printanière.
Oui, et ça sur quasiment l'ensemble du pays, avec un ciel bleu, un plein soleil. Là où ça va rester nuageux, c'est entre la Bretagne et le Pas-de-Calais ce matin, le long des côtes de la Manche, donc avec des nuages bien présents. Quelques brouillards même qui vont se dissiper dans la matinée. Nuages qui peuvent déborder sur le nord, la Picardie, la région parisienne et les Pays de la Loire. Ils vont persister d'ailleurs cet après-midi, mais laisseront passer les éclaircies, je vous rassure, partout ailleurs. Je vous l'ai dit, c'est grand beau. On va conserver d'ailleurs ce beau temps jusqu'à samedi avant le retour de quelques nuages dimanche, mais toujours avec beaucoup de soleil.
Et Céline, les températures seront très douces cet après-midi.
Oui, 13 degrés, c'est la plus basse du côté du Havre. La moyenne sinon sera de 15 à 20 degrés avec 16 à Paris. Ce matin en revanche, c'est encore un petit peu frais, 1 à 9 degrés en moyenne, avec encore des petites gelées, des températures négatives entre le centre-est et le nord-est.
Merci Céline.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures d'infos au cordeau, rehaussé d'une pointe d'humour, une équation complexe mais résolue chaque matin grâce au QI prodigieux des membres de cette équipe, Eva, Céline et bien sûr Bibi. La preuve encore avant-hier quand, sur la thématique de l'amour, Eva nous lisait un message d'auditeur qu'avec Céline, nous avons presque compris du premier coup.
Par amour, j'ai pas senté et laissé séduite au point qu'elle change d'orientation sexuelle. Bon, depuis, elle est retournée vers une femme. Mais ça reste une aventure extraordinaire, d'autant qu'on est restés amis.
Bon, j'ai rien compris.
J'ai rien compris non plus.
Vous avez pas compris ?
À suivre, des intellos,
c'était
des
clair,
vrais,
important,
politique, important. Économie, médias, les trois fantastiques arrivent au programme ce matin, notamment la fermeté au menu des manifestations à venir de samedi, et puis l'Italie, cheval de Troie des Chinois. Axel de Tarlé nous raconte comment Xi Jinping pourrait récupérer les chantiers navals de l'Atlantique via un armateur italien.
Vous écoutez Europe 1, il est 6h30. Mathieu Noël.
Voici le journal présenté par David Doucan. Bonjour David.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin.
C'est ce qui avait tout déclenché, le prix de l'essence. Attention, le baril de brut remonte. Les mêmes causes auront-elles les mêmes effets ? Information et analyse dès le début de ce journal. Et puis l'appel à la non-violence de Brigitte Macron. Vous entendrez la première dame qui s'exprime. Elle s'exprime très rarement sur la politique. Les soldats de Sentinelle pour faire face aux casseurs du samedi. C'est la volonté du président de la République. Elle fait polémique. On vous en parle dans un instant. Pas de report, sans accord, est-ce que c'est clair ? C'est le message de l'Europe à Theresa May. Soit elle fait adopter le texte, soit ce sera le Brexit dur.
Europe 1.
Attention, sujet inflammable. Le prix à la pompe, il avait baissé ces dernières semaines, mais le baril de brut est reparti à la hausse. Problème, c'était la genèse de la crise qui secoue le pays depuis 4 mois. Tout avait commencé avec la vidéo de la gilet jaune Jacqueline Mourot, Jean-Jacques Herry.
Souvenez-vous, c'était en octobre dernier. Une vidéo postée sur Facebook devient virale. 4 minutes, 37 secondes de coup de gueule où cet automobiliste du Morbihan attaque tous azimuts la politique du gouvernement avec un prisme en particulier, celui de la hausse des taxes sur l'essence. On ne le sait pas encore, mais l'épisode marquera le début de la crise des gilets jaunes. Même si en décembre, le gouvernement finira par lâcher du lest en renonçant aux taxes, le catalyseur de la crise pourrait à nouveau être ravivé par un mécanisme très simple. Coté à $68 en ce moment, le prix du baril de pétrole brut est en hausse, avec des conséquences à la pompe. Francis Dusseux, président de l'Union française des industries pétrolières.
Effectivement, le prix du pétrole brut a augmenté de 32%, je crois, par rapport à la fin de l'année. Ce qui est assez considérable sur le prix du brut, c'est 7 centimes sur le super et 8 centimes sur le gazoil.
Et avec cette nouvelle hausse du baril, dès la semaine prochaine, le prix du carburant dans les stations essence retrouvera mécaniquement le même niveau qu'en novembre dernier.
Jean-Jacques Herry pour Europe 1. Emmanuel Macron en a fait l'annonce en Conseil des ministres hier. Les soldats de Sentinelle seront utilisés samedi pour protéger certains points fixes, notamment des bâtiments officiels. L'objectif est de soulager policiers et gendarmes de cette tâche afin
afin qu'il puisse se concentrer sur le maintien de l'ordre mobile et dynamique. Cette décision fait polémique. Les oppositions sont vent debout, à l'image du député LR Éric Ciotti.
Je suis très réservé et très sceptique sur l'utilisation de la force sentinelle. Je le dis, là on est dans une stricte opération de pure communication. On fait semblant, mais les militaires de sentinelle ne sont absolument pas formés, ne sont absolument pas équipés pour assurer le maintien de l'ordre. S'il y a un incident, que vont-ils faire ? Ils vont tirer sur les manifestants ? Ce n'est pas une perspective à laquelle on peut se résoudre. Il y a des policiers, les CRS, il y a des gendarmes, les gendarmes mobiles qui sont spécialisés dans le maintien de l'ordre.
C'est juste de la communication ou c'est une dérive, Éric Ciotti, que d'envoyer l'armée ?
Je crois que c'est juste de la communication parce que naturellement, ces forces ne seront pas opérationnelles et heureusement dans le maintien de l'ordre.
Éric Ciotti qui était hier l'invité de Mathieu Béliard sur Europe 1. J'ajoute que le Premier ministre a décidé d'annuler son déplacement en Guyane où il devait passer tout le week-end. Édouard Philippe préfère rester à Paris au cas où les choses dégénèrent comme la semaine dernière. Et puis toujours au sujet de ces violences, on a entendu hier une voix peu coutumière des commentaires d'actualité, celle de la Première Dame. C'est même la première fois que Brigitte Macron tient un propos politique publiquement. Elle était hier à un débat des enfants à Paris, puis à Reims pour un match du Variété Club de France. Elle s'est exprimée lors de ces deux occasions. Écoutez-la, elle revient sur le samedi noir des Champs-Élysées.
On continue, on ne change rien, on ne change rien. On va, la vie continue, on n'a absolument modifié aucun rendez-vous, mais personne n'oublie ce qui s'est passé. On a tout ça dans la tête et ça ne peut pas continuer, c'est certain. On veut arrêter cette violence. Parce qu'il n'y a pas de vie possible, de réconciliation possible avec cette violence.
Brigitte Macron avec Julien Froment pour Europe 1. J'ajoute que la soirée s'est mal passée pour la Première Dame. Lorsque son visage est apparu sur l'écran géant du stade, une partie du public l'a copieusement sifflé. Brigitte Macron a ensuite renoncé à donner le coup d'envoi de ce match de gala comme c'était initialement prévu.
À suivre dans ce journal, dernière ligne droite pour le Brexit. Les Européens disent à Theresa May, pas d'accord, pas de report. À tout de suite.
Il est 6h34.
Europe 1.
Il est 6h35, Mathieu Noël.
La suite du journal David Doucan, le Brexit. Si une solution n'est pas trouvée dans les 8 jours, ce sera la sortie dure, sans accord.
Absolument, les 27 se retrouvent aujourd'hui à Bruxelles pour un Conseil européen. Les choses sont très claires, l'Union n'accordera un report à Theresa May que si elle parvient à faire adopter le texte d'accord que les députés britanniques ont pourtant déjà rejeté deux fois. Autant dire que la perspective d'un Brexit dur, le fameux no deal, apparaît plus que jamais comme une issue possible, une perspective qui divise profondément les Britanniques, même au sein des familles. Reportage à Londres, signé Anaïs Cordoba.
Brexiteur de la première heure, Elisa milite devant le Parlement plusieurs fois par semaine avec un petit groupe d'activistes. Elle réclame un Brexit dur et une sortie sans accord, une opinion irréconciliable avec celle de son fils de 24 ans qui fait activement campagne pour un second référendum. Depuis plus de deux ans, ils ne se parlent donc quasiment plus.
Nous avions l'habitude de manger en famille, mais nous ne le faisons plus car n'importe quelle conversation nous ramène au Brexit. Donc ça ne sert à rien. Ça m'affecte, mais je ne vais pas changer d'avis. Le Brexit, c'est un sujet fondamental. On parle de démocratie. Et lui ne comprend pas la valeur suprême de la démocratie.
Pour Alan et son épouse, c'est aussi une question de valeur. Viscéralement pro-européen, ils ont coupé tout contact avec un couple d'amis de plusieurs années qui avait voté pour le Brexit.
Ça me rend triste, mais je suis surtout en colère. Nous sommes tellement en désaccord avec les raisons du vote en faveur du Brexit que nous avons réalisé que nos manières de voir le monde différaient complètement de celles de ce couple. Nous ne pouvions plus dépasser le fait qu'ils aient voté Brexit. Autrement, c'est comme si nous soutenions leur choix implicitement.
Alan reparlerait à ses amis à la seule condition qu'ils changent d'avis. Londres, Anaïs Cordoba, Europe 1.
C'est un carnage qui a été évité en Italie. La police a sauvé in extremis 51 collégiens pris en otage dans un bus par le chauffeur. Cet Italien d'origine sénégalaise a invoqué le sort des migrants africains avant d'incendier le véhicule. Il a été interpellé sous les chefs de prise d'otage, massacre et incendie, avec la circonstance aggravante de terrorisme. Après le massacre de Christchurch en Nouvelle-Zélande, la Première ministre a annoncé cette nuit l'interdiction de la vente des armes semi-automatiques et automatiques. Je vous rappelle que 50 fidèles musulmans ont été abattus il y a près d'une semaine par un suprémaciste blanc. 31 000 personnes victimes de conducteurs non couverts par les assurances en 2018. C'est 12% de plus qu'en 2013. Ce sont les chiffres publiés hier par le Fonds de garantie qui indemnise à la place de ceux qui se permettent de ne pas s'assurer. j'aimerais écouter l'un d'eux, Vincent, qui explique que quand il était étudiant, il n'avait pas les moyens, alors il prenait le risque.
J'ai mon permis de conduire depuis 5 ans, je suis étudiant. En termes financiers, c'était un peu compliqué de payer une assurance, sachant que ma voiture, je l'utilisais 2 mois dans l'année, c'est-à-dire l'été quand je rentrais chez mes parents. C'est même très cher pour moi, trop cher pour moi, d'autant plus que quand on est étudiant, quand on vient d'avoir le permis, les assurances sont plus chères. J'ai eu la chance d'avoir aucun pépin, mais c'est justement ce qui me faisait un peu peur à chaque fois que je prenais la voiture, parce que je savais très bien que c'était très grave, pénalement responsable, que l'amende était assez énorme et que j'avais pas le droit de faire ça. Aujourd'hui, j'ai un travail, ça me permet de pouvoir payer une assurance. Maintenant que je peux me le permettre, j'en ai pris une.
Témoignage recueilli par Emmanuel Calafior pour Europe 1.
Merci. C'était le journal de David Doucan. Plus qu'un journaliste, pour moi, un ami, avec qui je pensais avoir une relation privilégiée, unique. Je nous voyais déjà l'été prochain jouer au Jokari sur une plage des Landes.
Ah,
on se serait tenu par la main pour aller chercher des chouchous.
Tant que c'est par la main.
Oui, ça aurait été merveilleux. Mais voilà, je me suis fourré le doigt dans l'œil car David en aime un autre.
Pardon. Ça, ce n'était pas enregistré. Continuez,
mais,
mon vieux, continuez.
Alors que moi, j'étais dans le romantisme. Je suis fourré le doigt dans l'œil, car David en aime un autre. Nico Saliagas. Et les deux sagouins ne se cachent même plus.
Vous êtes un grand nageur, m'a-t-on dit, David Doucan.
Je l'étais. J'ai un peu perdu de ma superbe.
Vous avez gardé cette soif de plonger dans l'inconnu de l'information.
Ça reste entre nous et Internet, hein.
Plongez avec Aliagas. Avec Céline, on n'a pas besoin de vous, je vais vous dire. Céline,
oh là là, oui.
La météo, je vous prie.
Gardez votre petit.
Oui, non, bah alors c'est écrit là, déjà. Non. C'est écrit déjà à la main et n'importe comment. Alors voyons voir qu'est-ce qu'elle m'a écrit. Ah, je suis de bonne humeur car il fait beau et il fait chaud.
Mais oui.
Contre Petri Belge.
Ah, il l'a pas. Mince, la musique devait partir.
Ah,
c'est pas grave.
La musique n'est pas partie.
Il fait beau.
C'est
il fait chaud.
Même parti.
Oh, 15 secondes plus tard, la musique est partie. Céline, quel temps.
Oui, le soleil. Donc aujourd'hui, un petit peu partout.
Pas plus du tout. Bon.
Allez, un peu moins près des côtes de la Manche. Où on a des nuages et même des brouillards ce matin. Nuages qui pourraient déborder sur les Pays de la Loire, la Picardie, l'Île-de-France, le Nord. Des températures qui seront très douces cet après-midi, mais encore un petit peu fraîches ce matin.
Formidable. Merci beaucoup Céline. C'était fabuleux.
5h, 7h. Mathieu Noël.
À suivre. Politique, économie, médias, les trois fantastiques arrivent pour vous aider à vous faire jeter votre avis sur l'actu. Au programme notamment, l'éclairage économique fascinant du toujours excellent Axel de Tarlet qui ce matin nous explique comment l'Italie pourrait être le cheval de Troie de la Chine en France. Passionnant sujet, proposé donc, David, par le formidable Axel de Tarlet.
Eh ben, puisqu'il est si formidable, il a qu'à aussi faire le journal de 6h30.
Bon, et jalouse avec ça.
Mon réveil, il est 6h41.
Bravo.
Il est 6h43, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Le Sénat va décider aujourd'hui s'il saisit ou non la justice pour parjure en cause Alexandre Benalla lui-même, mais aussi le secrétaire général de l'Élysée Alexis Kohler, le directeur de cabinet Patrick Strauda et le chef de groupe de sécurité, le général Lionel Lavergne. Les parlementaires les soupçonnent d'un certain nombre d'omissions, d'incohérences ou de contradictions lors de leurs auditions sous serment. C'est un carnage qui a été évité en Italie. La police a sauvé in extremis 51 collégiens pris en otage dans un bus par le chauffeur. Cet Italien, d'origine sénégalaise, a invoqué le sort des migrants africains avant d'incendier le véhicule. Il a été interpellé sous les chefs de prise d'otages, massacre et incendie avec la circonstance aggravante de terrorisme. Enfin, les pays membres de l'Union européenne se réunissent aujourd'hui à Bruxelles pour un Conseil européen. L'Union a d'ores et déjà été très claire. Elle n'accordera un report du Brexit que si Theresa May réussit à faire adopter le texte d'accord déjà négocié par les députés.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Ce matin, parmi les trois fantastiques, ils sont deux à être fringants. Eva Rock pour les médias, Mickaël Darmon pour la politique. Quant à notre spécialiste économique, Axel de Tarlet, il est, disons, moins fringant. Le spectre de son fiasco comique, dit de la vanne de Castaner, le poursuit inlassablement partout. Tel Mbappé, après PSG Manchester, il passe son temps à refaire le match dans sa tête. Il se repasse l'action au ralenti. Imagine ce qu'il aurait dû dire.
Castagnette pour Castaner. Oh, ça aurait été plus drôle.
Heureusement, dans ces moments cruels, il sait qu'il peut compter sur le soutien de ses collègues les plus proches, comme Céline et Eva, qui, lorsqu'elles le voient arriver, s'exclament désormais.
Axel de Tarlet va peut-être nous faire une blague sur Macron et les macarons, non ?
Suggestion. C'est bon de pouvoir compter sur ses amis. Hein. En matière humoristique aussi, militons pour le droit à l'oubli. On commence par la politique avec vous, Mickaël Darmon. Le dispositif des forces de sécurité rendu plus dur par les décisions du gouvernement fait craindre de fortes tensions en cas de nouvelles manifestations non autorisées. Au cœur de la place Beauvau, un tandem dirige les forces de police, Christophe Castaner et Laurent Nunez. Est-ce la situation idéale en temps de crise ?
Alors, pour ceux qui ont connu le célèbre tandem de la série Amicalement Vôtre, hein, composé de Lord Brett Sinclair et Danny Wilde, eh bien, il y a un peu de ça, Place Beauvau. D'un côté, vous avez Lord Nunez, de la fine fleur de la haute fonction publique et de la sécurité intérieure. Et puis, vous avez Christophe Danny Castaner, un battant de la méritocratie républicaine. Deux formations, deux caractères qui ont pris les commandes du ministère de l'Intérieur en enchaînant les crises sans pouvoir souffler. Castaner, le patron politique, Nunez, le professionnel. Mais Laurent Nunez aime aussi la politique. Alors il a noué depuis des mois des contacts avec les élus de la majorité. C'est normal, de par ses fonctions, il connaît déjà les sphères politiques et il a envie d'affirmer cette Nunez touch, hein, vous savez, calme, discrétion et sans fioritures. Alors cette semaine, par exemple, il a débriefé à plusieurs reprises les dysfonctionnements de samedi et il a commenté le nouvel arsenal en disant tout simplement on ne va pas les laisser se regrouper, il y aura forcément du contact, il y aura du contact, a-t-il répété à plusieurs reprises. On a également vu que Castaner a laissé Nunez répondre à deux questions d'actualité à l'Assemblée cette semaine.
Est-ce à dire, Mickaël, que la répartition des rôles est en train de changer au sein de ce binôme ? Ça ne va pas devenir inamicalement vôtre quand même ?
Mais non, parce que d'abord, en temps de crise, on resserre les rangs et Nunez partage évidemment cette approche, ce qui montre qu'il sait déjà manœuvrer en politique. Parce qu'en fait, il y a bien une évolution du tandem qui était pensé au début avec un Christophe Castaner qui devait s'occuper de la réforme de la loi de 1905 pour la laïcité et prenant ainsi une densité plus régalienne. Et Nunez serait devenu un peu plus le ministre des policiers sur le terrain. Mais voilà, Emmanuel Macron ne veut plus réformer la loi de 1905 et les violences du 16 mars resteront peut-être comme un point de bascule politique. Castaner est dans la tempête. En tous les cas, le tandem de Beauvau devra se réinventer. Les crises sont passées par là. Christophe Castaner aura à cœur de gagner un nouveau statut. Le duo de flics, pour l'instant, tient le choc. Et dans le plus pur style des tandems, donc des policiers de la 5e République, il y en aura toujours un qui prendra le dessus. Parce que la vie, c'est pas du cinéma.
Merci beaucoup, Mickaël Darmon. Et je me tourne à présent vers le dauphin d'or, Axel de Tarlé, notre spécialiste économique. Axel, le président chinois Xi Jinping arrive aujourd'hui en Italie pour signer une série de contrats d'infrastructures. Beaucoup s'inquiètent de l'entrisme des Chinois en Europe.
Eh bien oui, parce que Xi Jinping va signer des contrats de coopération en Italie avec le port de Gênes, avec le port de Trieste. En fait, vous savez, c'est tout le projet des routes de la soie. C'est quoi ce projet ? Ce sont les Chinois qui financent de gigantesques travaux d'infrastructures depuis la Chine jusqu'en Europe. Alors, ils passent, vous voyez, par le Sri Lanka, Djibouti, etc. pour acheminer toujours plus de produits chinois vers l'Europe. Alors, vous savez que la Chine en Europe possède déjà le port du Pirée, mais là, avec l'Italie, elle entre de plein pied dans la grande Europe. Et c'est ça qui inquiète beaucoup de monde, hein, qui voit dans la Chine une menace. Bah, par exemple, nous, en France, on a les chantiers de l'Atlantique. Vous savez que les chantiers de l'Atlantique sont en train d'être vendus à l'italien Fincantieri. Mmh. Mais Fincantieri, avec qui fricote Fincantieri ?
Avec
les Chinois. Voilà, il y a déjà.
Fincantieri, alors.
Exact. Oh là, il y a déjà.
Ah bah bon, moi, aussi, je ne me tente plus à l'humour.
Je ne fais plus d'humour. Donc Fincantieri a développé un projet de coopération avec la région de Shanghai. Et donc on se demande si finalement nos chantiers de l'Atlantique à nous, ils vont pas se retrouver chez les Chinois. Vous voyez, cette influence, elle va très loin quand même, parce que les Chinois ont signé des accords d'infrastructure avec la Pologne, avec la Hongrie, et ensuite ils ont des relais en Europe. Par exemple, en 2017, on a été très surpris de voir les Grecs voter contre un communiqué de presse de l'Union européenne sur les droits de l'homme en Chine. Pourquoi les Grecs ont voté contre ce communiqué de presse ? Parce que les Grecs, maintenant, ils sont un peu avec les Chinois, vu que les Chinois possèdent le port d'Athènes. Donc, beaucoup s'inquiètent de tout ça, et y compris les Américains. Les Américains qui, la semaine dernière, se sont opposés à une OPA des Chinois au Portugal, parce que les Chinois veulent racheter la compagnie électrique du Portugal.
Céline, mais faites quelque chose.
Mais je suis sur le coup.
Eh bien, les Chinois, les Américains ont dit ça ne se fait pas. On ne confie pas sa compagnie d'électricité à une puissance étrangère, surtout quand il s'agit de la Chine. Donc vous voyez cet entrisme chinois, on va beaucoup s'en inquiéter à l'occasion de cette visite de Xi Jinping cette semaine en Europe. Il commence par l'Italie, ensuite sera Monaco, puis Emmanuel Macron.
Merci beaucoup Axel de Tarlé pour ce point économie. Eva Rock, j'allais dire on se détend, mais on se détend pas tellement que ça finalement ce soir à la télé.
Non, parce que l'événement média, c'est sur M6 ce soir à 21h. La chaîne diffuse un documentaire fleuve intitulé Leaving Neverland. Le réalisateur américain Dan Weed a recueilli les témoignages de James Safechuck et Wade Robson et de leur entourage, ces deux hommes qui accusent Michael Jackson d'actes pédophiles quand ils étaient âgés respectivement de 10 et 7 ans.
Hello Wade, today is your birthday, so congratulations. I love you.
J'avais 7 ans. Il nous a proposé de passer le week-end avec lui à Neverland.
Alors, je n'ai pas pu voir le documentaire dans son intégralité, mais il est extrêmement troublant pour les larges extraits que j'ai pu voir, troublant par le contenu des témoignages, très précis, très détaillé et troublant aussi parce que le film est à charge. Donc à chacun son avis quand vous verrez ce documentaire de près de 3 heures et à chacun son avis aussi sur France 2. Alors dans un autre genre totalement différent, mais je vous conseille un des sujets d'Envoyé spécial consacré au mystère Jeanne Calment.
Ah, c'est reparti cette histoire.
Est-elle décédée à l'âge de 122 ans ou s'agit-il d'une usurpation d'identité, sa fille se faisant passer pour sa mère, comme l'affirment un historien russe et un médecin.
J'ai regardé des photos d'elle à la fin de sa vie, entre 110 et 122 ans. Et j'ai noté que les trois marqueurs du grand âge, ostéoporose, démence et asthénie, c'est-à-dire la grande fatigue, avaient 20-25 ans de retard chez elle. Et chez une femme qui fume, qui boit et qui mange 1 kg de chocolat par semaine, ben, je suis désolé, mais ce n'est pas crédible.
Alors, le journaliste d'Envoyé spécial a recueilli des tas de témoignages, très peu de certitudes, il faut le dire quand même. Hein. La médecin Catherine Levrault, qui s'est occupée de Jeanne Calment, raconte qu'elle était dans une forme olympique jusqu'au jour où, à 115 ans, elle a chuté et alors elle n'est plus du tout la même.
Quand c'est arrivé qu'on fasse des radios, si on voulait vérifier qu'il y a une fracture de côte, on ne pouvait pas la voir parce que les os étaient tellement peu minéralisés qu'ils étaient très peu visibles sur les radios. On avait l'impression qu'elle était fossilisée, c'est-à-dire qu'elle était, elle se ratatinait. Enfin, j'ai jamais vu quelqu'un qui ait l'air aussi vieux. Pourtant, j'en ai vu.
Alors, entre des démographes qui doutent, des habitants d'Arles où vivait Jeanne Calment convaincue qu'elle était bien la doyenne de l'humanité, ces anciens médecins qui se posent encore toujours des questions, bien, le mystère Jeanne Calment ressemble à une enquête d'Agatha Christie et c'est une enquête passionnante à voir dans Envoyé spécial à 21h sur France 2.
Merci beaucoup, Eva Roque, pour ces conseils. Merci Axel de Tarlé, Mickaël Darmon. L'équipe des Trois Fantastiques sera de retour demain aux alentours de 7h moins le quart.
Europe 1, 5h-7h, Mathieu Noël.
Debout les copains touche à sa fin, je céderai bientôt le micro à Nico Saliegas pour le 7-9 d'Europe 1 dans lequel officie également Axel de Tarlé ici présent, Axel dont on aurait pu espérer qu'il utilise le 5-7 pour se refaire une virginité humoristique. Hélas, il faut croire que le Didier Gustin du Nasdaq n'apprend jamais de ses erreurs, comme tant à le prouver ce off d'hier.
Comment on dit pour les éoliennes, les pales qui tournent?
Ouais, c'est des pales. Attends, peut-être un petit jeu de mots à faire, attends.
C'est pales, pieds.
Ah oui, fais-la celle-là.
Ou pas. Le meilleur est à venir, le débrief de la matinale de Nico Saliegas.
Il est 6h52, bon réveil à tous.
Mathieu Noël, tous les jours de 5h à 7h sur Europe 1.